D'Haïti et des Amériques. C'est avec vous, Anne Verdaguer. Bonjour.
Bonjour, Benjamin. Bonjour à tous. À 2 semaines, jour pour jour, de l'élection présidentielle aux États-Unis, on va se rendre à Détroit, dans le Michigan, un état où le vote noir est un enjeu important. On vous parlera aussi de la Floride, où le vote anticipé a débuté et où Donald Trump et Joe Biden sont au coude à coude dans les sondages. Cette révolte des autochtones en Colombie, plusieurs milliers d'entre eux ont manifesté à Bogota aujourd'hui pour alerter les autorités du regain de la violence envers leur communauté. Et puis en Haïti, l'ouverture aujourd'hui d'un tribunal d'opinion à Port-au-Prince à l'occasion des 10 ans du déclenchement de l'épidémie de choléra dans le pays. Le compte à rebours a donc commencé aux États-Unis, plus que 2 semaines avant l'élection présidentielle, et l'un des états clés, c'est le Michigan, dans le Midwest. En 2016, Donald Trump avait remporté à la surprise générale cet état berceau de l'industrie automobile américaine et traditionnel bastion démocrate, avec seulement 10 700 voix d'avance. La candidate démocrate de l'époque, Hillary Clinton, avait quant à elle souffert de l'abstention des électeurs démocrates. Dans la ville de Détroit, plus de 8 habitants sur 10 sont afro-américains. Si Joe Biden veut gagner dans le Michigan, il doit reconquérir leur vote. Écoutez le reportage de nos envoyés spéciaux Stéphanie Schuller et Bertrand Éclair.
Bonjour Jacqueline, c'est Carol Baxter de Michigan United. Comment ça va?
Ça va.
Tu as prévu de voter le 3 novembre? Et comment?
Oui, j'ai déjà voté dans mon bureau de vote.
Et qui était ton choix pour le président, si je peux te poser la question?
Joe Biden.
Cela fait plusieurs semaines que Carol Baxter passe des coups de fil. Membre de Michigan United, une organisation qui milite pour plus de justice sociale, il veut s'assurer d'une large participation de la communauté afro-américaine aux élections de cette année. En raison de l'épidémie de Covid-19, les militants afro-américains ont dû abandonner le traditionnel porte-à-porte. Tout se passe désormais par téléphone, mais au lieu d'appeler des inconnus, les volontaires misent sur la mobilisation de leur entourage personnel, explique Von Glenn.
Quand vous parlez à quelqu'un avec qui vous avez déjà des liens et dont vous connaissez la vie, vous avez plus de chances de le convaincre. Le but étant que je vous parle et qu'ensuite vous allez parler à votre tour à votre entourage. Ça a créé un effet boule de neige.
Les arguments pour convaincre les Afro-Américains ne manquent pas. Et cette année, Martel Von Glenn, il y a urgence d'aller voter.
Les gens meurent. Des gens meurent du Covid-19 et beaucoup plus dans les rangs des Noirs que chez les Blancs. Les gens perdent leur boulot, ils sont expulsés de leur logement. Les gens ne peuvent pas payer leurs factures, ils ne peuvent pas manger. Sans oublier que nous sommes victimes de violences policières.
À la gare routière de Détroit, Mary Howard, 71 ans, attend son bus sous la pluie et dans le froid. Pensez-vous qu'après la mort de George Floyd, le mouvement de Black Lives Matter ces derniers mois aura un impact sur l'élection?
Peut-être que cela poussera certaines personnes qui n'ont jamais voté à se rendre aux urnes. Peut-être. Mais ce n'est pas pour cela que je vote. Parce que pour moi, nous avons toujours compté. Est-ce que la vie des Noirs compte? Mais bien sûr qu'elle compte. Nous sommes des humains, pas des animaux ou des plantes.
Chez les électeurs noirs âgés, comme Mary Howard, le candidat démocrate bénéficie encore d'une bonne image, explique Sadie Sarr. D'origine sénégalaise, elle est la fondatrice de l'organisation Abissa, le bureau africain pour l'immigration et les affaires sociales.
Joe Biden, il y a des gens qui sont contents parce que c'était le vice-président de Barack. Le choix de Kamala Harris, par exemple, parce que c'est quand même une femme de couleur noire, a quand même donné un début de réponse avec l'idée de, faut commencer à écouter le leadership des femmes de couleur noire. Donc peut-être que maintenant, on aura l'occasion réellement de faire en face des problèmes raciaux que ce pays a. Il y a une communauté qui est réellement enthousiaste. Donc il y a cet espoir qui est là.
Mais parmi les jeunes électeurs afro-américains de Détroit, c'est un tout autre sentiment qui prédomine à l'approche des élections. Lucy Fry dirige Nandy's, un centre communautaire dans le quartier de Highland Park.
Je me sens trop découragée pour aller voter, parce que nous sommes toujours en bas de l'échelle dans tout. Après 8 années avec un président noir, est-ce que les votes des Noirs ne devraient pas être pris en considération aujourd'hui? Le vote noir compte? Ce n'est pas ce qu'on constate.
Stéphanie Schuller et Bertrand Éclair, Détroit, RFI.
Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
On vous retrouve pour la revue de presse des Amériques et on commence par le vote anticipé qui a commencé hier en Floride, le plus grand des états clés de cette élection présidentielle américaine où Donald Trump et Joe Biden sont au coude à coude dans les sondages.
Oui, et ce lundi, cette journée humide typique du sud de la Floride n'a pas découragé les électeurs, nous apprend le Miami Herald. Ils sont arrivés dans les bureaux de vote avant l'aube, portant des ponchos et des masques et tenant des parapluies. Et de Miami à Saint-Pétersbourg, avant même l'ouverture des bureaux de vote à 7h, ils ont posté sur réseaux sociaux des photos de ces files d'attente qui faisaient parfois le tour des pâtés de maison. El Nuevo Herald, le journal en espagnol de Floride, précise que, comme lors des primaires du mois d'août, des précautions ont été prises contre le coronavirus. Dans le comté de Miami-Dade, le personnel s'était équipé de désinfectants et exigeait le port de masques pour pénétrer dans les bureaux de vote, tout en promettant, souligne le quotidien, de donner des masques à ceux qui n'en avaient pas ou de leur permettre de remplir leur bulletin de l'extérieur.
Et au total, nous apprend le Miami Herald, ce sont plus de 40 000 personnes qui ont voté ce lundi à Miami-Dade, un des comtés de la Floride.
Oui, et c'est 5 000 de plus qu'en novembre 2016. En tout, plus de 3 millions de personnes devraient voter en personne en Floride avant le jour de l'élection. Mais 2,5 millions ont déjà voté par la poste. Alors pourquoi ce choix du vote en direct? Je veux être sûr que mon vote est légal et qu'il va compter, explique Yensis Martinez en votant hier pour Donald Trump. Donald Trump qui a, rappelle le Miami Herald, mis en doute la légitimité du vote par correspondance. Selon le Parti démocrate de Floride, rapporte le Washington Post, les démocrates sont d'ailleurs en tête dans le vote par correspondance dans cet état, plus d'un million contre 620 000 pour les républicains, qui affirment du coup que le vote en personne marque le début d'une poussée républicaine. Mais, estime le journal, s'il est vrai que les Américains votent en ce moment en nombre record, bon nombre des règles qui régissent les votes qui vont être prises en compte et ceux qui ne le seront pas font encore l'objet de disputes politiques et légales.
Et du côté des politiques, la campagne continue de battre son plein et se concentre sur le coronavirus. Dans une conversation téléphonique avec des membres de son équipe de campagne, Donald Trump aurait déclaré à propos du docteur Fauci, figure très respectée aux États-Unis pour son combat contre les maladies infectieuses et notamment le Covid-19, eh bien Donald Trump aurait déclaré ce type est un désastre. Le docteur Fauci, qui l'a pourtant nommé au sein de la cellule de crise de la Maison-Blanche sur le coronavirus, le président s'en est également pris au médecin sur son fil Twitter et lors d'un meeting dans l'Arizona hier, Donald Trump a réitéré ses attaques, mais de façon moins frontale. La correspondance à Washington, Dan Corpe.
Votre État se débrouille bien avec la pandémie, lance Donald Trump, alors que 748 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés ce lundi en Arizona. La pandémie, Covid, Covid, Covid. Les gens en ont marre d'en entendre parler sur CNN, ajoute le président, qui qualifie au passage les journalistes de la chaîne de télévision de stupides bâtards. Puis Donald Trump se moque du docteur Fauci.
Vous savez que Biden veut fermer le pays et écouter le docteur Fauci. Et le docteur Fauci a dit ne portez pas de masque, vous l'avez vu, mais maintenant il dit de porter des masques. Et on dit que c'est un type merveilleux. Bon, c'est un type merveilleux, je l'aime bien, mais il a vraiment un très mauvais lancer.
Et sous les rires de ses partisans, Donald Trump imite le docteur Fauci en train de maladroitement lancer une balle de baseball. Ces attaques répétées contre l'un des médecins les plus respectés du pays ont suscité des réactions indignées, y compris au sein du Parti républicain. Anne Corpe, Washington, RFI.
Christophe, la presse s'est fait l'écho de ces attaques contre le docteur Fauci.
Oui, des attaques d'autant plus graves que Donald Trump a sous-entendu, sans aucune preuve, rapporte le Washington Post, que les conseils de Fauci pour répondre à la pandémie sont si mauvais qu'il a causé la mort de centaines de milliers de personnes. Alors pourquoi ces attaques, se demande le Boston Globe. Il y a toujours une logique trumpienne à ces explosions sur Twitter, note le journal, qui explique « il était en colère ». Fauci a dit à l'émission 60 Minutes que la Maison-Blanche l'empêchait de faire certaines interviews télévisées et qu'il n'était pas surpris que le président ait contracté le Covid-19. Bref, alors qu'une nation anxieuse tourne ses yeux vers Trump, il regarde ailleurs pour trouver quelqu'un, n'importe qui, à blâmer pour cette pandémie qui fait sombrer ses espoirs de second mandat. Pendant ce temps, des épidémiologistes cités par le Boston Globe affirment que les 6 à 12 prochaines semaines devraient être les plus sombres de toute la pandémie aux États-Unis. Une pandémie qui a fait 119 000 morts dans le pays.
Direction à présent la Colombie. Hier, c'était la première journée de manifestation à Bogota de milliers d'autochtones qui ont rejoint à pied la capitale pour protester contre les violences dont ils sont victimes.
Oui, ils ont fait 600 km et ils continuent de marcher. 8 000 manifestants ont défilé hier du Palais des Sports à la place Bolivar, rapporte Elle Spectacle. El Tiempo publie de son côté toute une galerie de photos commentées de la manifestation, une marche qui a été pacifique, largement en vert et rouge aux couleurs du CRIC, le CRIC, le mouvement des indigènes du département du Cauca, dont viennent la majorité des manifestants. Sous la photo d'une jeune femme agitant un foulard blanc, le journal note que pendant la marche, quelques habitants se sont penchés à leur balcon pour montrer leur soutien aux autochtones et souligne que si personne ne sait encore combien de temps le groupe d'indigènes restera dans la capitale, la maire qui a reçu hier leur chef a promis de les aider.
Carla Minga, Christophe, le rassemblement de ces autochtones, est venu à Bogota pour voir Ivan Duque, mais jusqu'ici, le président fait la sourde oreille.
Minga et Duque, une rencontre embourbée, se demandent les spectateurs en titre. Ce qui pose problème pour le gouvernement, explique le journal, c'est la volonté de la Minga d'avoir un débat politique avec le président. Pas d'ultimatum, demande le gouvernement, qui estime que de toute façon, il faut d'abord définir des règles et des protocoles sur les thèmes abordés lors d'une éventuelle rencontre. Et la ministre de l'Intérieur a estimé, rappelle le journal à plusieurs reprises, que cette mobilisation était en fait politique. Dans un éditorial intitulé « Minga et pseudo-démocratie », Elle Spectador rappelle que cette Minga se mobilise pour protester contre les massacres, les assassinats de responsables syndicaux, la diabolisation des luttes populaires. Quelle étrange démocratie, s'exclame l'éditorialiste, que la démocratie colombienne qui stigmatise la protestation sociale et refuse qu'un des aspects les plus importants du jeu démocratique soit le débat politique et la contradiction.
Et puis Christophe, on y va, au Canada, la ville d'Abestos change de nom.
Oui, un peu de légèreté, cette ville devient Val-de-Source, c'est-à-dire dans la presse, et c'est un moment historique, explique le maire. Alors en fait, Abestos signifie amiante, et la ville veut se défaire, depuis déjà 30 ans, des connotations négatives de ce nom, d'autant qu'elle en a terminé avec l'industrie de l'amiante depuis la fermeture de la mine en 2012. Ce changement de nom, ce n'est pas sans un pincement au cœur pour certains habitants. L'un d'entre eux évoque quand même dans la presse, en riant, ses vacances à Cuba en 1981, des vacances pendant lesquelles une serveuse a reculé quand il lui a dit qu'il venait d'Abestos, d'amiante. Elle ne m'a pas parlé du reste de ses vacances.
Merci beaucoup Christophe Pagé pour cette revue de presse des Amériques.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Direction Haïti pour notre rendez-vous hebdomadaire avec Godson Pierre, éditeur du site d'information en ligne Alter Presse. Bonjour Godson.
Bonjour Anne.
À la une de l'actualité haïtienne, Godson, l'ouverture aujourd'hui d'un tribunal d'opinion à Port-au-Prince à l'occasion des 10 ans du déclenchement de l'épidémie de choléra en Haïti. Un tribunal chargé de fixer les responsabilités de l'ONU dans cette tragédie qui a fait des milliers de morts en 9 ans.
Des représentants d'organisations de la société civile et plus spécialement des mouvements sociaux participeront à ce tribunal, dont le but est d'exiger justice et réparation en faveur des victimes du choléra en Haïti. Son verdict servira de nouvel outil de mobilisation permettant d'intensifier la lutte et d'offrir plus d'opportunités aux victimes pour trouver réparation. Les organisateurs, dont la plateforme de plaidoyer pour un développement alternatif, PAPDA, réclament donc des réparations individuelles de toutes les familles, des personnes décédées, des réparations communautaires et des réparations pour le pays par rapport aux dommages économiques subis. Le choléra, introduit en Haïti par les soldats de l'ONU, a fait officiellement au moins 10 000 morts et infecté 800 000 personnes. Les organisateurs du tribunal parlent d'environ 30 000 morts, sans oublier les dégâts considérables sur l'économie du pays, entraînant une réduction de la production rizicole dans le département de l'Artibonite au nord.
Également à la une ce mardi, Godson, l'appel lancé par 82 organisations de la société civile haïtienne et internationale pour mettre fin au silence et à la complicité internationale dans la crise qui affecte Haïti.
Ces organisations soulignent une aggravation de la situation dans le pays. Situation caractérisée par l'appauvrissement, la corruption, la terreur et l'impunité. Le changement doit commencer en Haïti en mettant fin à l'impunité, estiment ces organisations, haïtiennes, françaises, belges, canadiennes, espagnoles, allemandes et béninoises, parmi lesquelles figurent donc des syndicats, des organisations non gouvernementales, des associations ainsi que des mouvements paysans, des mouvements féministes et des mouvements citoyens. Elle exige de la communauté internationale, en particulier du corps groupe, de mener une diplomatie basée sur la souveraineté des Haïtiens, leurs revendications et le refus d'apporter un soutien économique, politique et moral à une réforme constitutionnelle et à des élections dans les conditions actuelles. Cette diplomatie doit aussi se démarquer et s'opposer à toute ingérence, dont celle constante des États-Unis d'Amérique souhaitent ces organisations.
Enfin, Godson, environ 120 000 candidats passent cette année le bac en Haïti, des examens qui ont débuté hier dans des conditions difficiles.
Il y a eu des retards considérables dans la livraison des feuilles d'examen dans plusieurs sièges. La presse a pu observer de nombreuses difficultés à faire respecter les consignes de distanciation sociale dans le cadre de Covid-19. C'est une année scolaire également très réduite qui s'achève quand une autre a déjà commencé, des perturbations dues à la crise sanitaire et la crise sociopolitique récurrente.
Merci beaucoup, Godson Pierre, du site d'information en ligne Alter Press. Très bonne journée à vous. L'actualité des Outre-mer à présent avec le journal La Première présenté par Tiziana Marone. Bonjour Tiziana.
Bonjour Anne.
À la une aujourd'hui, la colère et l'exaspération des planteurs de bananes en Martinique.
Oui, ils se sont mobilisés hier devant le siège du groupement Banamart après avoir appris la baisse du Fonds européen pour l'agriculture, le POSEI. Les planteurs de bananes exigent l'ouverture de négociations avec l'État et les services de l'Europe. Ils jugent leur situation économique catastrophique. Leurs fins de mois sont difficiles. Ils souhaitent d'ailleurs que le groupement révise son mode de fonctionnement. Écoutez ce planteur au micro de Franck Zozor de Martinique la Première.
Aujourd'hui, on a mis en place ce qu'on appelle le POSEI. Ce POSEI, c'était fait pour compenser la vente de la banane des producteurs de bananes. Résultat, l'OPITI, ou par la tête, c'est les plus intelligents d'après eux, qui a décidé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce POSEI, on l'a utilisé, ils ont pris un fixe, et puis c'est les salaires qui a touché des gros salaires. Puis on nous a dit qu'on va vendre la banane. On va vendre la banane. Ça veut dire que POSEI, là, il y a tout commercial, tout bien fixe. Et puis, on va vendre la banane. Tout ça, mani avant, pour fusion. Si on ne partage pas notre tracteur, si on ne partage pas notre tracteur, on ne gagne rien.
En Guyane, hier soir, des rassemblements étaient organisés dans 3 villes du territoire en hommage à Samuel Paty, le professeur assassiné en région parisienne par un extrémiste islamiste. À l'appel de syndicats de l'éducation nationale, une centaine de personnes s'étaient donc rassemblées devant la préfecture de Cayenne. Beaucoup d'enseignants avec des banderoles portant des messages forts.
Il y a une banderole qui explique qu'il ne faut pas laisser l'obscurantisme gagner. Sur la deuxième banderole, on a mis 4 mots tout simplement. On a voulu faire quelque chose de sobre et qui pourrait résonner pour tout le monde. C'est humanité, éducation, liberté et laïcité. On a associé ces 4 mots parce qu'on les trouvait très importants.
La liberté d'expression, on l'a de moins en moins dans la rue et sous un gouvernement tel que le nôtre. J'ai eu la chair de poule, ça c'est sûr, hein, immédiatement face à l'horreur.
Des propos recueillis par Myriam Boiscoulin de Guyane la Première. Cap sur la Guadeloupe pour terminer. Malgré la réouverture des restaurants depuis le 7 octobre dernier, le secteur reste fortement impacté par la crise sanitaire. La saison touristique qui approche ne s'annonce guère meilleure pour ces établissements. Leurs fournisseurs pâtissent également de cette situation, à l'image d'Henri Labuti, pêcheur de crustacés de luxe.
Moi, on a fait la pêche de crustacés de grande profondeur. Donc, langoustine, batinum, crevette. Batinum, c'est une sorte de crustacé. Plus fort le crabe. Et cher, vraiment très, 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 très fin. Et c'est un produit de luxe. Donc, on ne peut pas trouver ça sur le marché du tout. Des restaurants, on va prendre les 20 kilos même. 20 kilos, 30 kilos même. Ouais. Mais là, maintenant, là, il n'y a pas pour grand-chose. Hein. C'est à peine 10 kilos de batinum. Et c'est ça, ça va être difficile pour nous, là.
Le marin pêcheur Henri Labuti au micro, Guadeloupe la Première de Josiane Champion. Et c'est la fin de cette édition, Anne.
Bonne journée à vous, Tiziana Marone. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. 15h10, c'est notre rendez-vous tous les jours. On se retrouve demain et je vous souhaite en attendant une très très bonne journée. Restez avec nous sur la Radio du Monde dans un instant. Votre émission sur la francophonie de vive voix avec Pascal Paradou. À très bientôt.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.